Le journal est présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le nouveau navire des ONG SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières se dirige en ce moment vers la Libye. Comme l'Aquarius avant lui, il y sauvera des vies, des migrants fuyant l'Afrique. À son bord, 24 humanitaires, portrait du premier d'entre eux dans un instant.
Nous irons également dans ce journal aux États-Unis. 24 heures après les deux fusillades qui ont touché l'Ohio et le Texas, Donald Trump fait un petit pas contre les armes à feu. On a déjà fait beaucoup, dit-il, mais peut-être peut-on faire davantage.
À Hong Kong, la grève générale a débuté. Une première dans la mégalopole tenue par Pékin, nous dira notre correspondant, après 2 mois, je vous le rappelle, de contestation pro-démocratie.
Dans ce journal encore, Clara, zoom sur la menace de la Turquie. Elle annonce une opération anti-kurde en Syrie.
Et puis nous irons en Inde suivre une visite menée par des enfants des rues. Ils sensibilisent les touristes à la misère dans les quartiers pauvres de New Delhi. Envers et contre tout, il met les voiles. Le voilà en route vers la Méditerranée centrale, au large de la Libye. Le nouveau navire humanitaire de SOS Méditerranée et de Médecins du Monde a quitté hier soir Marseille pour aller sauver des migrants. Cela faisait 7 mois que les deux ONG n'avaient plus de bateau, depuis que l'Aquarius avait perdu son pavillon. Place maintenant à l'Océan Viking, sur lequel navigue l'ancien équipage, à savoir 24 humanitaires. Nick Romagnouk, 34 ans, coordine les opérations de sauvetage. Son portrait ce matin est signé Thibault Lefebvre.
7 mois sans naviguer, jamais ces dernières années, Nick n'a passé autant de temps hors de l'eau.
J'ai envie de quitter le bureau.
Alors cet Anglais, Marseillais d'adoption, barbe fournie, peau rougie par le soleil, avait hâte de retourner en mer.
On n'est pas fait pour bosser dans les bureaux, donc soulagé d'une certaine manière de repartir en mer, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. C'est malheureux qu'on doive le faire en fait. Il y a un peu de peur aussi parce que il y a des nouveaux qui arrivent, ils sont là pleins d'enthousiasme pour la mission et ça change. Ils vont être confrontés par des choses très très difficiles, même s'il n'y a pas de mort. Juste voir les gens dans une situation aussi périlleuse et après d'entendre les histoires de souffrance, ça te change très très vite.
Nick ne se considère pas comme un humanitaire mais comme un marin. Il travaille depuis l'âge de 15 ans sur des bateaux. Il est scaphandrier, nageur, formé à la médecine d'urgence, mais avant tout amoureux de la mer. Le mois dernier, il était en vacances au Maroc pour faire du surf.
Un truc qui était un plaisir pour moi avant, maintenant c'est un danger en fait. C'est un peu dommage. J'ai passé tellement de temps dans l'eau pour récupérer les gens qui étaient en train de mourir. En fait, j'ai associé directement la mer à ça. En fait, avant, ça ne me faisait pas peur. C'était l'endroit que je me sentais bien. Maintenant.
Nick, comme les 12 autres marins sauveteurs de l'Océan Viking, ont un suivi psychologique obligatoire. Ils ne doivent pas, dans la mesure du possible, rester à bord plus de 6 semaines consécutives.
Voilà pour le portrait de Nick Romagnouk qui coordonne les opérations de sauvetage sur l'Océan Viking. Le navire devrait arriver au large de la Libye d'ici 2 à 3 jours. Je rappelle que selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de l'année, 576 migrants sont morts en Méditerranée centrale. Sans compter les naufrages qui n'ont pas été répertoriés. Eux ont débarqué à Malte hier après avoir été secourus mercredi dernier par l'ONG Sea Eye. 40 migrants vont être rapatriés dans plusieurs pays européens. En revanche, le navire Open Arms, lui, est toujours bloqué en mer depuis 3 jours maintenant avec 120 migrants à son bord. Les drapeaux sont en berne aux États-Unis sur les bâtiments officiels. 4 jours de deuil national ont été décrétés après les 2 fusillades de ce week-end. La première a eu lieu dans un quartier festif de Dayton, dans l'Ohio. Un jeune homme armé d'un fusil automatique et équipé d'un gilet pare-balles a tué 9 personnes, dont sa sœur, en moins d'une minute. Il a été abattu par la police. La deuxième fusillade à El Paso, au Texas, semble avoir été motivée, elle, par l'idéologie raciste du suspect. Avant de tuer 20 personnes dans un supermarché, il avait publié un manifeste pro-Trump contre l'immigration hispanique à cette frontière avec le Mexique. Et c'est là que des centaines de personnes se sont recueillies hier, Grégory Phillips.
Le terrain de baseball, juste derrière le centre commercial où a eu lieu le massacre, s'est transformé en église à ciel ouvert où l'on prie alternativement en anglais et en espagnol. À la tombée du jour, ils sont plusieurs centaines, petites bougies blanches à la main, à se recueillir. Eddie est venu avec son petit garçon de 9 ans, Noah. C'est vraiment difficile pour eux de comprendre, mais on essaie d'expliquer aux enfants ce qu'est le diable, le mal absolu. On fait ce qu'on peut, on parle le plus possible avec eux. Le tireur n'était pas originaire d'El Paso, Faso, mais de Dallas, à 9 heures de route. Il a dit aux enquêteurs qu'il était descendu jusqu'à la frontière pour tuer un maximum de Mexicains. Vous savez, cette communauté d'El Paso est très mélangée, explique Carlos. On a tous de la famille de l'autre côté de la frontière, à Ciudad Juárez. Je pense que certaines personnes, les suprémacistes blancs notamment, ne supportent pas de nous voir ainsi unis. Dans la foule compacte et unie, on parle évidemment de la circulation des armes à feu. Certains veulent un contrôle plus strict, mais pas tout le monde. Moi, je pense qu'avoir une arme sur soi, c'est une priorité, dit Valérie. Je veux pouvoir protéger ma famille. Si quelqu'un dans ce magasin avait eu une arme, il aurait pu agir. Des veillées comme celle-ci, il y en a un peu partout en ville. Images déchirantes, mais malheureusement habituelles, des lendemains de fusillade aux États-Unis.
Grégory Phillips, notre envoyé spécial au Texas, à El Paso. Hier soir, Donald Trump jurait que la haine n'avait pas sa place aux États-Unis. Et pourtant, c'est lui que l'on accuse après ce week-end meurtrier. Lui qui, en campagne pour la présidentielle 2020, attise la colère, selon l'opposition. Les crimes racistes se multiplient. Cela inquiète le politologue démocrate américain Dick Howard. Il s'en explique.
Ce massacre à El Paso avait lieu dans une ville frontalière où justement il y a 4000 soldats réguliers dispatchés par Donald Trump pour, entre guillemets, protéger la frontière, c'est-à-dire tourner vers l'extérieur, vers l'autre, à la défense de nous-mêmes, c'est-à-dire les Blancs. Il y a une cohabitation sans problème dans cette ville. Le problème vient justement de l'intérieur et ça vient surtout, me semble-t-il, des provocations de ce président qui tente justement à raccourcir sa base et à faire en sorte que cette base s'activera et que les autres seront dégoûtés et ne viendront pas voter en 2020. Avant les élections de 2016, il déclare, entre autres choses, qu'il y a une invasion, que ce sont des Mexicains, ce sont des violeurs, etc., etc. Donc, voilà qu'il y a une sorte d'appel aux armes, pour ainsi dire, lancé dès le début de la campagne, et ça n'arrête pas chez ce Donald Trump. Et ce que je crains, c'est qu'on va vers une société où les Blancs se sentent assiégés, où il y a une sorte de ressentiment, et malheureusement dans ce pays, comme j'ai dit, on a facilement accès aux armes et on passe à l'acte.
Le politologue Dick Howard, il répondait à Pierre-François Plessis. Le président Donald Trump promet, lui, une déclaration ce lundi à 10h, heure de Washington, 16h, heure de Paris. Les tensions et l'incertitude commerciale en Chine vis-à-vis des États-Unis font chuter la devise du pays au plus bas depuis 9 ans. Le seuil symbolique de 7 yuan pour 1 dollar a été franchi ce week-end. Cette baisse, que Washington estime être artificielle, favorise les exportations chinoises. Cela atténue aussi l'impact de la hausse des taxes américaines sur les produits chinois. Les transports en commun sont à l'arrêt ce matin à Hong Kong. La grève des manifestants pro-démocratie est plutôt suivie et la réponse du gouvernement pro-Pékin est déjà tombée. Les manifestations mettent Hong Kong dans une situation très dangereuse. Voilà ce que dit une responsable du gouvernement ce matin. Selon elle, ils tentent de détruire la mégalopole. Alors nous faisons le point sur la situation avec Simon Leplâtre.
Mission accomplie pour les manifestants, Hong Kong a été paralysé quelques heures ce matin par une grève générale et des blocages des transports publics pour la première fois dans l'histoire de la ville. En ce moment, les rues sont clairement plus calmes que d'habitude et des rassemblements sont prévus dans toute la ville cet après-midi. Cela ne veut pas dire qu'une majorité de Hongkongais font grève, loin de là, mais dans une ville où la culture du travail fait vraiment partie de l'identité, c'est une action sans précédent. Si la plupart des enseignes fonctionnent normalement, certains magasins sont restés fermés ce matin et à l'aéroport, des centaines de vols ont été annulés. Faute de personnel. Ce matin, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a donné une conférence de presse pour condamner les violences et la grève, mais encore une fois, elle se contente de rejeter la faute sur les manifestants et n'admet pas la moindre erreur, si ce n'est d'avoir mal expliqué la loi d'extradition vers la Chine qui cristallise la contestation depuis 2 mois. Pas de quoi apaiser donc, et vu la détermination des manifestants, le mouvement devrait se poursuivre pour les semaines à venir.
Autre rassemblement pour la démocratie, autre répression également. À Moscou, près de 800 personnes ont été arrêtées arrêté ce samedi. La France et l'Allemagne demandent au pouvoir russe de les libérer. Les deux pays dénoncent un usage disproportionné de la force contre les manifestants et une entrave à la liberté d'expression.
Il est 8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La Turquie veut lancer une opération militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie.
Une menace évoquée par le président Recep Tayyip Erdogan. Il dit avoir averti déjà la Russie, alliée du régime syrien, ainsi que les États-Unis, partenaires des Kurdes. Cet avertissement dure en réalité depuis plusieurs mois à Nadlower.
Ces trois dernières années, Recep Tayyip Erdogan a fait de l'élimination des forces kurdes implantées le long de sa frontière le fondement quasi exclusif de sa politique syrienne. Ankara refuse de voir ses combattants kurdes y établir une sorte de mini-État qui achèverait d'asseoir leur légitimité internationale et pourrait servir de base arrière pour attaquer le territoire turc. Deux freins retardent le projet de Recep Tayyip Erdogan. D'abord, il lui faut obtenir le feu vert de Moscou, principal soutien du régime syrien. Ensuite, les forces kurdes sont appuyées sur le terrain par des militaires occidentaux, principalement américains, dont la sécurité serait menacée en cas d'offensive turque. Pour éviter d'en arriver là, Washington et Ankara négocient en vain, depuis des mois, l'établissement d'une zone dite de sécurité qui écarterait les combattants kurdes de la frontière turque. Les menaces de Recep Tayyip Erdogan sont une façon de faire pression sur les États-Unis, alors qu'une délégation américaine est à Ankara ce lundi pour tenter de faire avancer les négociations.
À Nadlower, depuis Istanbul ce matin pour France Culture. Cette offensive-là est lancée et elle dure depuis 4 mois. En Libye, le maréchal Haftar veut toujours marcher sur Tripoli et écraser le gouvernement de Fayez al-Sarraj, reconnu par les Nations Unies. Chacun, pour le moment, use de ses forces et surtout de ses alliés. Un lent bras de fer et une guerre civile qui s'embourbe, Christian Chesneau.
La conquête de Tripoli par les forces du maréchal Haftar piétine, la ligne de front s'enlise. L'incontrôlable militaire n'a pas réussi à éliminer son rival Fayez al-Sarraj, certes affaibli dans son réduit de la capitale libyenne, mais dont le gouvernement est toujours reconnu par l'ONU. Quand il a lancé son offensive de printemps, le maréchal Haftar avait pris tout le monde par surprise, à commencer par ses alliés arabes et occidentaux. Tous ses soutiens ont alors appelé à la retenue et encouragé une sortie de crise négociée, mais en coulisses, beaucoup espéraient une victoire nette de celui qui se présente comme l'ennemi numéro 1 des radicaux islamistes. Malgré des revers sur le terrain, il continue de bénéficier de puissants soutiens. Ainsi, début juillet, après un bombardement d'un centre de migrants dans la banlieue de Tripoli, attribué aux forces pro-Haftar, l'Amérique de Trump a empêché l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une condamnation unanime de ce raid. Un carnage qui n'en a rien freiné les combats d'une guerre civile alimentée par des livraisons d'armes massives par les alliés des deux camps.
Et pour tenter officiellement de trouver une issue à cette guerre civile, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec le président égyptien. L'Égypte évoque l'objectif d'un cessez-le-feu à brève échéance. Après 30 ans de dictature, le Soudan s'oriente vers une transition politique. Militaires et représentants de la contestation se sont en tout cas mis d'accord. D'ici 2 semaines, le 18 août prochain, une autorité civile sera formée dans le pays. Elle devra mener le pays pendant 3 ans avant de probables élections au Soudan. Le président Omar el-Béchir avait été destitué, rappelons-le, début avril. On apprend à l'instant que le gouvernement indien va révoquer l'autonomie constitutionnelle du Cachemire. Une décision qui sera explosive pour cette région en proie toujours à une insurrection séparatiste. L'Inde et New Delhi que nous vous proposons en ce 5 août de visiter autrement. Il est possible de sillonner la capitale indienne accompagnée d'enfants des rues. Chapeautés par une association, ils font découvrir aux touristes des quartiers à travers leurs yeux. Une sensibilisation plutôt bien bienvenue, comme l'a constaté notre correspondant Sébastien Farcy.
Cela fait près d'une heure que nous naviguons dans les allées étroites du vieux Delhi. Nous découvrons ses artisans, ses temples centenaires et ses senteurs d'épices. C'est alors que Lalit Mishra, le guide de l'association Salam Balak, nous fait entrer dans une vieille bâtisse qui accueille un atelier de couture. Ces ouvriers réalisent les tuniques, les saris ou tous les vêtements traditionnels pour femmes, explique-t-il. C'est un travail précis de conception et de broderie. Les robes sont magnifiques, chacune est unique. Ceci est la perle de l'artisanat indien. Mais cette visite, menée par cet ancien orphelin recueilli par l'association, a également pour but de dévoiler les réalités cachées de la vie indienne. Des entreprises de cette zone emploient des enfants, explique Lalit, et ils les payent 1 euro par jour pour leur travail. Leurs parents les envoient ici car ils n'ont pas de quoi les nourrir, et Salam Balak organise donc des missions pour secourir ces enfants. Lali termine en racontant sa vie d'enfant des rues, puis son parcours dans l'association. Cette manière unique de visiter New Delhi a captivé Gilbert Verbeken, un Belge qui a suivi cette visite avec sa famille.
On voit ce qu'on ne voit pas normalement. On ne doit pas passer dans deux nuits à Delhi. On ajoute une troisième, on fait des choses comme ça. Tu vois comment les gens vivent et pas comment les touristes doivent voir les gens autour des mosques et des choses à visiter. Et l'expérience en totalité est très, très agréable, très importante, je trouve.
Ces tours permettent aux enfants majeurs de l'association comme Lalit de gagner leur vie après leurs études.
C'était un reportage de Sébastien Farcy, correspondant de RFI à New Delhi pour France Culture. Notons enfin qu'en Égypte, le sarcophage doré de Toutankhamon va être restauré, une première depuis 1922. Il est parti de la vallée des Rois à Louxor pour rejoindre le Grand Musée au Caire pour une exposition qui s'annonce déjà grandiose fin 2020. Le temps de ce lundi en France, avec du gris et de la pluie sur le nord-ouest. Partout ailleurs, le ciel s'annonce bien ensoleillé, avec ce matin 21 degrés à Lille, 24 à Paris, 25 degrés à Besançon et 29 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal.